pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Vieille sisette qu'en parlabo
te dono l'aso portao
dam lo surei che sperabo
cataba su camina
sisette vede l'estaco
a tu che si arligas
si arres nun sen destaco
chi pudera caminar. Mira tu que cadena, bueno de tiempo pasará. Sé que tombó, 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 la crujido que de ya. Si tiró y perenza, si tira sorte perderá. Sé que tombó, 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 que se fuera de
tutti a prude tensoro
chi se scarogna las mas
si la forsende sciacade
pare sveglano cavas
de tut segut che i puoi rido
tutti si se pesata
a cops che perdi la ido
betuna dise tu cas. Si mira tu se cadera, bueno de tempo partirá. Segui que tombo, 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 la crucido que de ya. Si tiri rollo perenza, si tira sorte perderá. Segui que tombo, 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 que se fuera del libra.
Lubie i siset che sem caron
ma vencerà mia data
chi sa fosse trubadaro
de muri solo porta
a pausa spassan luz droles
e mi lo capta canta
l'unda recando vieiomi
l'udare chi me insegna. Si la tu si cadera, quello di te compasirà. Segui che tombo, 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 la cucina che deia. Si ti rigogli un pezza, si ti rassorti perderà. Segui che tombo, 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 che se pura perdirà. La 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 la.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, votre rendez-vous mensuel avec un auteur. Et aujourd'hui, c'est une auteure que je reçois et j'ai le plaisir de rencontrer. C'est une enseignante à la retraite. Elle a participé à un groupe de recherche sur l'évolution des milieux agricoles et ruraux, sociologue passionnée des relations occitano-catalanes et a travaillé sur le réseau Oui Oui de l'OSS. Et j'ai l'honneur de recevoir Annie Rieu-Mignas. Bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'écouter une très très belle chanson, enfin en mon sens, et tout à fait appropriée au livre que vous allez nous présenter. Cette musique qui parle de paix, de frontières et de relations entre les hommes, c'est ça qui vous a poussé à choisir cette chanson ?
Oui, pour cette raison, mais aussi pour d'autres raisons, puisque ma maman est une réfugiée de la guerre d'Espagne.
Oui.
Elle avait 15 ans quand elle a passé la frontière du Pertus avec les 500 000 réfugiés espagnols et catalans qui ont fui le franquisme. Luis Llach, quand il a chanté l'Estac, ce chant m'a toujours émotionnée.
Et oui, puisque l'Estac, c'est l'attache.
C'est donc l'attache.
C'est l'attache qui peut se rompre, comme a dû le faire votre maman.
Oui.
Et cette attache qui lie à jamais à son pays et à la vie.
Oui, ça a été sans retour. Mmh. Ça a été un aller sans retour, avec toutes les souffrances de tous les exilés, quels qu'ils soient. Hein. On en voit encore nos jours
tout à fait.
Des représentations.
Tout à fait. Nous allons ouvrir tout de suite votre livre « La bataille des Pyrénées » paru aux éditions Le Pas d'Oiseau, que je recommande d'ailleurs à nos chers auditeurs, parce que c'est un livre qui est très, très poignant et qui parle aux tripes, en fait. Il est coécrit avec Joseph Calbé-Bellera, qui est historien. Il a été aussi coordonné à la création de la prison-musée du Chemin de la Liberté de Sors, qui est en Catalogne. Coécrit également avec Noémie Riudor Garcia, qui est historienne. Elle a élaboré l'exposition sur la bataille des Pyrénées. Et vous-même, donc, Annie Rieu-Mias. Vous nous proposez ce livre à six mains, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Les Pyrénées, tout le monde les connaît pour le ski. Véritablement, ça ne devrait pas être une barrière, ces Pyrénées, puisque elles peuvent être franchies comme toutes les montagnes d'ailleurs. Mais là, en temps de guerre, c'est vraiment la frontière qu'il ne fallait surtout pas dépasser. Et elles ont été témoins de la pire des horreurs et maltraitance, esclavage, enfin tous ces mots réunis, si on peut arriver à trouver un qualificatif. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à la rencontre de ces témoins dont vous parlez tous les trois dans le livre?
Oui, disons que initialement, nous avions connaissance de cette histoire, puisque pour le réseau, oui, mon père était un agent de renseignement de ce réseau sur la dernière partie frontalière.
Oui.
Et il nous avait raconté cette histoire que je connais depuis que je suis enfant. Et il avait eu des témoignages sur les journaux locaux. Et je me rappelle qu'au collège, en 5e ou 4e, on devait faire un travail sur la résistance. Et j'avais parlé de mon père. Et alors, j'étais très fière parce que j'avais... Pour moi, c'était un héros.
Et, oui.
Et puis, j'avais eu une excellente note et on avait lu mon travail. Ça devait être une des rares récompenses parce que ce n'était pas toujours le cas dans toutes les disciplines. Donc, j'avais connaissance de cette histoire et que mon père nous racontait par le menu détail. Et donc, la rencontre avec Noémie Ruidor d'abord, qui était de l'autre côté des Pyrénées, parce que moi, je suis originaire du Couseran, du village de Salo, commune de Couflens, et avec mon père... Enfin, nous marchions toujours sur les chemins qui nous amenaient de l'autre côté, comme on disait, de l'altra costat. Lui, il allait à la chasse, à la pêche, il avait des liens avec des personnes qui parlaient catalan, qui parlaient une langue que moi je ne connaissais pas, mais lui parlait son patois gascon.
Oui.
Donc il y avait des liens très forts qui s'étaient liés. Et on descendait toujours dans les mêmes maisons, parfois des maisons obscures où ça sentait le vin espagnol, où il y avait des odeurs que je retrouvais, moi, d'enfance. Donc, sur Esteridaneo, à Los Dizil, Isil, ça, c'est ma deuxième patrie, je dirais. J'avais plus de liens de l'autre côté que du côté Saint-Giron. Pour moi, c'était la ville un peu plus anonyme, etc. Donc, j'ai connu Noémie Ruidor, qui est une historienne de l'Érida, qui vivait à Estéry et qui a mené un travail sur la même thématique que moi. Nous sommes rentrés en contact. C'est elle plutôt qui est rentrée en contact avec moi et nous avons décidé d'abord d'une exposition. D'une exposition sur ce sujet, de réseau méconnu. Parce que s'il existe beaucoup d'ouvrages sur... la résistance, la guerre au niveau national, au niveau local, beaucoup de témoignages. Puis il y a quelques petites choses qui sont passées à la trappe, je dirais.
Oui.
pas très connu. Et nous, notre idée, c'était de porter à la connaissance d'un public le plus large possible de cette histoire et de donner et faire un hommage à ces gens de peu, comme disait le sociologue Pierre Sansot. Mmh. C'était un peu l'idée.
Oui. Ça a dû être donc un projet colossal, vous venez d'en parler un petit peu, avec des recherches sans fin, j'imagine. Comment s'étudie ce projet de livre avec toutes ces informations que vous y mettez, parce que vous avez dû en faire des recherches?
Bon, au début, c'était une expo. Elle a levé le format d'une exposition où nous avions présenté le réseau Oui-Oui, le réseau Jean ou Joanne Sol-Lévy, notre informateur était là. Pièce maîtresse, mais nous avions aussi le réseau Ponsan, nous avions Claude Bennett d'Andorre qui avait fait une participation, donc on avait présenté sur, je crois qu'il y avait 3 panneaux par réseau, et c'est une belle exposition qui existe toujours, qui a circulé à Toulouse, à la Casa d'Espagne, dans les lieux espagnols de Toulouse, à Saint-Giron, au Musée du Chemin de la Liberté, ensuite à Barcelone, en Catalogne, enfin elle a circulé pas mal. Et puis on avait tellement d'informations qu'on trouvait qu'il fallait faire autre chose pour donner un peu plus d'épaisseur à ces histoires. Donc on a eu l'idée de faire un livre.
Et le
livre finalement n'a été fait qu'avec 3 interlocuteurs.
Oui.
Enfin 3 interlocuteurs. Le réseau Ponsan est tellement connu qu'on ne l'a pas repris. On a repris ces réseaux plus méconnus. On a eu les sources historiques d'abord, parce qu'il y a déjà Claude Delpla, dont vous avez dû entendre parler,
oui,
l'éminent historien ariégeois. C'est lui qui a mis au jour cette histoire du réseau Oui-Oui. Il avait des dossiers, des fiches. Et un jour, il est venu voir papa, dans les années 80, oui. Et il a fait parler sur ce réseau et il a fait une petite plaquette que j'ai là, sur ce réseau. Et c'est lui qui vraiment a fait connaître ce réseau. Après, bon, moi j'ai repris les travaux de Delpla et on est allé beaucoup plus loin parce que j'avais eu l'idée d'interroger mon père, de l'enregistrer, de lui faire parler sur ce, suite à l'entretien avec Delpla finalement, à le faire parler sur ce réseau, comment il est rentré dans ce réseau, qu'est-ce qu'il a fait, et chaque fois, bon, comme je suis sociologue, je savais faire les relances pour aller au plus profond, au plus détail.
En tout cas, vous l'avez bien fait parce que c'est presque, quand on lit ce livre, on dirait qu'on entend votre papa.
Voilà, on chemine avec eux. C'était l'idée sous-jacente de cheminer avec eux. Hein. On a eu aussi donc, le témoignage oral de Roger Rieux, mais aussi de Joanne Sol-Lévy pour l'autre réseau. On a eu en main les cahiers de mémoire écrits du chef du réseau, Oui-Oui, Jean-Marie Maurer, qui a été mis à notre disposition, et de Marcel Carrère, qui était un autre agent du réseau, qui miniaturisait les plis qui étaient recueillis, dont on parlera tout à l'heure certainement.
Oui.
Et ensuite, comme je disais, ça a été une immersion sur tous les territoires, parcourir les chemins, aller d'un côté de l'autre, interroger les gens, les autres informateurs qui avaient à voir avec ces réseaux, et notamment pour le réseau Oui-Oui, ce qu'on appelle les maisons relais, parce qu'on n'est pas comme ça, un agent tout seul sur le chemin avec son petit pli à courir la montagne, à aller porter à l'agent catalan le message, etc. Il y avait tout un réseau, il faut savoir qu'il y avait tout un réseau de solidarité. Sans ça, ça n'aurait pas pu se faire.
C'était un réseau de résistance, quelque part, tout en étant passeur et tout en étant, tout en jouant un grand rôle par des personnes qui n'étaient pas dans l'armée. Ils y étaient enrôlés, mais ils le faisaient de eux-mêmes, quoi, pour apporter la pierre à cette forteresse qu'il fallait garder à tout prix, le drapeau. Les Pyrénées, on l'a bien compris, en lisant le livre, on comprend bien que ces Pyrénées sont en ébullition pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment, vous dites que les passeurs n'ont pas eu la reconnaissance qui aurait dû être la leur de la part des dirigeants, de chaque côté d'ailleurs, vous en parlez bien aussi. Est-ce que c'était de la part des dirigeants de la faiblesse de ne pas les reconnaître, ou est-ce qu'il fallait surtout pas qu'ils soient reconnus?
C'est compliqué à répondre parce que mon père a eu des tas de médailles. Et il a eu la Légion américaine, il a eu des reconnaissances
tardives. Oui, mais je veux dire par là du côté français.
Oui.
Parce que l'Amérique, oui, l'Amérique...
Alors du côté français, moi je l'attribue. Alors du côté français, parce que le réseau Oui-Oui, c'est un réseau de l'OSS. Et l'OSS, c'est l'ancêtre de la CIA. Mmh. Et au niveau... À mon avis, mais ça a été dit par d'autres historiens, au moment de la résistance, ce réseau était soutenu par Giraud, qui était l'opposé à De Gaulle.
Ah d'accord.
Vous voyez. Alors quand De Gaulle a regroupé tous les mouvements de résistance, tout ça, Giraud était moins...
Oui, il savait plus où trop...
Moins apprécié, je dirais. Et donc, je pense, parce que ce réseau était giraudiste pour celui-là,
oui.
Qu'il n'a pas eu la reconnaissance du travail accompli. Et mm-hmm. pourtant, quand vous lisez, vous voyez très bien que ce à quoi il a contribué,
oui.
avec sa chaîne Mort, qui était la chaîne ariégeoise,
oui.
Notamment pour le débarquement de Toulon, quoi.
Mm-hmm.
Hein.
Mm-hmm.
Voilà, ouais. Je pense que c'était une période où il y avait cette compétition entre les réseaux de résistance. Alors évidemment, c'est pas le réseau Patolliri, c'est pas le réseau Comète, c'est pas tous ces grands réseaux.
Mm-hmm.
C'était des petits réseaux, mais tous ces petits réseaux finalement ont été peu connus et c'était à nous de les faire connaître. Quoi.
Et en même temps, ils ont été très utiles. Vous avez dit enregistrer votre papa. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous vous êtes senti être le témoin, le dernier témoin peut-être de cette période sombre qu'ils ont vécu, ces jeunes?
Oui, je pensais que c'était important de l'interviewer là-dessus. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir enregistré ma mère sur sa guerre d'Espagne.
Ah oui.
J'aurais dû le faire aussi, mais bon, là, je l'ai fait pour ça. Je suis contente de l'avoir fait.
Oui.
Parce que j'ai une voix sur directe, quoi.
Oui.
Oui, je pense, parce que mon idée, c'est de... En fait, ce livre, c'est Mémoire, Histoire, Transmission.
Voilà, c'est ça. Partage, le relais de la mémoire, c'est ça. Et comment vous avez vécu ces moments de partage avec votre papa, ces moments d'enregistrement? Est-ce que, au fond de vous, il y avait une part de tristesse, une part de... Je ne sais pas, j'imagine, je ne sais pas.
Donc, j'avais de la fierté.
Oui.
Surtout,
oui.
La fierté. Et je me suis dit... Puisque toi, tu n'as pas eu la Légion d'honneur, personne ne lui a proposé. Si, quand il est mort, en rangeant les papiers, on a trouvé un dossier à moitié rempli. D'ailleurs, il n'allait pas aux commémorations officielles.
Oui, ça se comprend.
Il le disait, il dit, quand je vois les résistants qui sortent maintenant du bois, ça le mettait en fureur.
Je comprends.
Et moi, je me suis dit, pour moi, c'était... Et pour Noémie aussi, pour Jean Soldéville, c'était... C'est notre récompense, si vous voulez.
Oui. Ah. Vous leur faites un hommage.
Un hommage, un honneur.
Et après... un remerciement aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on a eu la liberté qu'on connaît. Oui.
Et puis les gens, ils en feront ce qu'ils voudront.
Tout à fait.
Ce n'est plus mon problème.
Tout à fait.
Nous, on l'a transmis. Je l'ai transmis à mes frères et sœurs, parce que dans la famille, nous sommes 5 enfants. Et c'est moi qui fais les recherches. Bon, parce
c'est
que
normal.
Par intérêt, par profession. Et mes frères et sœurs étaient heureux.
Oui.
D'avoir eu...
Est-ce que le mot patriote, à l'époque où votre papa s'est engagé, puisqu'ils avaient tous 20 ans et également je suis fille de combattant, est-ce que le mot patriote avait un sens pour ces jeunes de l'époque?
Je pense, oui. Parce que papa est issu d'une famille pauvre, d'une mm-hmm. mère célibataire. Le mari de sa mère, le premier mari de sa mère, est mort à la guerre de 14. Son corps est resté à Bertrix. Elle n'avait pas d'argent pour faire rapatrier le corps. J'ai retrouvé dans les archives de ma grand-mère encore une lettre d'un commandant qui lui disait « Votre mari a été enterré à tel endroit, tombe numéro X, si vous voulez envoyer un présent, quelque chose ». Elle était pauvre de chez pauvre, comme on dit.
Oui.
Papa a été élevé dans cette pauvreté, mais toujours très volontaire, très, très rude, je dirais.
Oui, oui, je comprends.
Il travaillait...
Valeureux.
Valeureux et très patriote.
Oui.
Très patriote, oui.
Est-ce que c'était une force au point de renoncer à la vie normale, entre guillemets et entre parenthèses, parce qu'on ne leur a pas imposé de s'impliquer comme ça dans cette guerre? Est-ce que c'était aussi cette vie normale du lendemain, l'espoir pour sacrifier leur jeunesse comme ils l'ont fait, que ce soit homme ou femme, parce que dans le livre, on vous dit aussi que les femmes ont leur part. Et comme vous le dites, du côté français, mais aussi du côté espagnol, parce qu'ils travaillaient de concert.
Tout à fait. Disons que papa, quand il était jeune, il travaillait à la tâche chez les uns, chez les autres. Il a été sollicité par le chef du réseau, Jean-Marie Maurer, qui a reconnu, qui connaissait son sens de... D'abord, il parcourait la montagne comme une chèvre, son sens du devoir. Tous les témoignages que j'ai pu recueillir ensuite de gens qui ont connu mon père, c'est toujours les mêmes qualificatifs.
Oui.
Il n'était pas engagé. Sensibilité peut-être plutôt communiste, je dirais.
Oui.
Il n'était pas tellement engagé, mais patriote, oui.
Oui, voilà, c'est ça.
Après, il était gaulliste.
Oui.
Et jusqu'à la fin de ses jours, il a été gaulliste.
Mais parce que, justement, ils ont vu que dans ce couloir, au bout, il y avait la liberté, et c'est ce qu'ils voulaient tous, ces jeunes à l'époque, certainement. Oui.
Et son chef du réseau était d'affinité communiste aussi.
D'accord.
Sans être encarté dans le Parti communiste.
Oui.
Après... Je pense que mon père a été très amer pour les reconnaissances qu'il n'a pas eues, y compris dans... Il n'avait pas de travail.
Mmh.
Il s'est engagé dans l'armée en Autriche et quand il a été démobilisé en 1946, moi je suis née en 1948, il est retourné à Cavers, là, dans la vallée de Cavers, et il élevait des chèvres.
Mmh.
Il avait un petit troupeau de chèvres. Et personne ne l'a aidé pour mettre le pied à l'étrier, pour...
avoir un travail
pour
décent.
Avoir un travail décent.
Je comprends.
Après, il a fait des remplacements, il a coupé du buis,
il a travaillé
à l'usine EDF, etc. Et après, c'est grâce à des gaullistes, entre guillemets, qu'il a eu un poste d'intérimaire à l'EDF et qu'il a eu une titularisation pour être gardien de la petite centrale EDF. C'était en 1960. Et c'est en 1960 que nous avons enfin eu une maison chauffée avec l'eau sur le robinet, même pas au chaud d'eau froide parce que c'était déjà assez rudimentaire, un WC à l'intérieur, des chambres, et nous étions quatre enfants.
Mm-hmm.
Ça a été...
Oui, je comprends. Ils ont renoncé à beaucoup de choses pour le bonheur de leur famille.
Oui, je ne dis pas ça pour me faire plaindre.
Non.
Je raconte une histoire, une réalité.
Oui.
Et nous avons tous été très solidaires.
Et bien élevés.
On a tous serré les coudes parce que des tempêtes, il y en a eu d'autres.
Oui. Alors, à tous ces passeurs dont vous parlez dans le livre qui ont pu... rester en vie encore quelque temps après cette sombre période, il faut les remercier, et c'est le travail de votre livre, parce qu'ils ont fait un travail de l'ombre colossal, et en plus, quand on voit ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est démoralisant, quoi, parce que on comprend pas toujours comment on peut faire tout ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à ces hommes et ces femmes de 20 ans qui ont tout laissé, et parfois ils y ont laissé leur vie. Vous en parlez aussi de ça. Hein. La France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis ont travaillé étroitement ensemble. Les passeurs, est-ce qu'ils étaient quand même bien vus, finalement, par leur travail peut-être et par le fait qu'ils pouvaient apporter la pierre à l'édifice d'un autre côté que l'armée qui était sur le front et tous ces soldats qui sont partis sur le front et en Allemagne.
Mais disons que ces réseaux, par définition, ils étaient secrets.
Et oui.
Alors donc, on ne connaissait pas qui était dans ces réseaux.
Oui.
On le sait par la suite, quoi. Même sa mère... Elle ne savait pas qu'il était dans ce réseau.
D'accord.
Parce qu'il était toujours en train de courir sur la frontière, parce que tous les 15 jours, il passait un pli, un message.
Oui.
Où il descendait à Saint-Girons avec un vieux vélo, aller récupérer les messages.
Oui.
Et sa mère, Les voisins disaient, Roger, il traîne toujours dans la montagne, il doit faire du trafic de saccharine. Et alors, papa, il me racontait que, il dit même ma mère, elle ne savait pas ce que je faisais.
Oui, c'était aussi de protection de leur part.
Il avait fait une formation, il m'avait dit à Toulouse, mais je ne sais plus dans quel centre,
oui.
il s'en rappelait pas,
oui.
Pour apprendre le secret, pour s'y rencontrer, pour d'abord ne pas parler. Mais ça, oui. Ça a toujours été un homme secret. Parce qu'il y a des choses
oui.
qu'on n'a jamais su
oui. Oui.
de notre vie. Il était armé, il avait toujours un pistolet, un Mauser, comme il disait. Dans la poche, et au cas où
oui.
enfin, on lui avait appris tout ça. Et
oui.
pour parler du réseau des protagonistes espagnols aussi, c'était des gens pauvres aussi, des gens qui n'avaient pas d'argent. Et,
oui.
Donc ils étaient rémunérés pour faire oui. ce travail. Et comme Emilienne Echen, qui était celle qui en a énormément parlé, qui a essayé de faire une sociologie des passeurs, elle retrouve ces catégories de personnes paysans, pauvres, etc., secrets, qui avaient du tempérament, qui ont œuvré dans ces réseaux. C'est comme ça c'est pour ça qu'on les a choisis, d'ailleurs.
Oui, hein. oui. Alors, vous parlez à un moment de dénonciateurs. Qui étaient-ils ? Est-ce que c'était des collaborateurs de l'Allemagne, des personnes tenues par la peur ? Comment arriver à comprendre qu'on peut donner, on peut lâcher les noms comme ça de son propre voisin ?
Malheureusement, les dénonciateurs, oui, ils ont existé parce qu'on a tendance
à... Oui, à un moment, vous en parlez dans le
oui,
livre. Oui.
On a tendance à considérer que tout le monde était résistant. Des gens moulins, il n'y en avait pas...
Oui.
Il n'y a pas que des gens moulins. Hein. Maintenant, on édulcore un peu cette question de la résistance où il n'y avait pas de... Sans être des grands collaborateurs,
oui.
collabos... Et là, il y avait des gens pour des raisons de vengeance,
c'est fou.
De jalousie.
Oui.
Va savoir. On connaît bien dans le réseau
oui.
le Grumbach là, qui a été abandonné parce qu'il était trop gros, parce qu'il ne pouvait pas marcher, etc. Le guide l'a largué, il a fait des dénonciations. Quoi,
oui. Hein.
Bon, alors ça a été dramatique pour certains.
Eh oui.
Pour d'autres. Mon père, il a eu de la chance, il n'y a jamais eu des dénonciations. Mais par contre, pour le réseau Jean, là,
oui,
il y a
tout
une,
à fait.
Il y a
oui.
une histoire.
Oui.
Je vous en parlerai en aparté.
Oui.
Parce que c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Là, il était chargé d'amener un aviateur belge du côté
oui,
de
oui.
jusqu'à Salo. Il l'a fait.
Et Charles Hepsey.
Oui, comme oui. ils étaient en zone occupée, c'est quelqu'un d'autre qui devait prendre le relais. Apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les choses ne se sont pas bien concordées. Ils l'ont laissé partir tout seul. Il
oui.
a été arrêté. Arrêté à Saint-Giron, torturé
oui.
et tué au bois de la Reule, à côté de,
et oui.
de Toulouse. Là.
Mm-hmm. La Gestapo, est-ce qu'elle a fait beaucoup de ravages parce qu'elle devait avoir des espions aussi dans les Pyrénées.
Eh bien, disons que chez nous, à Couflens, il y avait ce qu'on appelait les douaniers. Là. C'était
oui.
ceux qui surveillaient la frontière. Alors, vous avez le port de Salo, le port d'Ola, et papa, il passait à Aurener, au milieu. Là, parce
mm-hmm.
que c'était très compliqué, il y avait des ronces, des champs de myrtilles, me disait-il. Mais le port de Salo, qui est le port le plus bas et le plus accessible, était énormément surveillé. Donc, il y avait les douaniers allemands étaient en permanence. Il y a eu des arrestations de passeurs aussi, des gens qui passaient,
oui.
des gens. Hein,
oui, oui,
qui
oui,
passaient
oui, oui.
Des...
Et ça devait être très dangereux parce que il fallait
oui.
le faire la nuit et pas le jour.
Oui,
et
alors
donc, terrain accidenté.
Terrain accidenté.
Terrible.
Il y a eu des arrestations.
Oui.
Ça a été il y a eu des guides qui ont été tués, là, du côté de Saint-Enac, d'Oust, mm-hmm. Du côté de Seix aussi. Là où passe le chemin de la liberté, là, ils font une randonnée sportive chaque année.
Oui.
Ça s'appelle le chemin de la liberté,
oui.
où des gens ont été arrêtés, des avions ont été abattus. Donc, là, ils ont utilisé ce chemin pour parler de cette histoire. Et c'est ce même chemin que Jean-Marie Maurer, le chef du réseau, avait utilisé la première fois où il est passé.
Oui. Annie, nous allons faire une petite pause musicale, hein, nous en avons besoin, il faut nous reprendre notre souffle, nous remettre de nos émotions. Vous avez choisi de faire honneur à ces personnes valeureuses. Malheureusement, il ne doit pas en rester beaucoup dans ce monde aujourd'hui, mais en tout cas, nous avons une pensée pour eux avec. Et vous avez choisi Ariège Mon Pays. Et c'est pour cet Ariège qui a travaillé dans l'ombre que vous choisissez cette chanson.
Mais cet Ariège occitane.
Ariège Mon Pays. Otero tanta imado, maire tanta durado. Te presero en tu jur, tu no me rejuvis, Ariège mon país. Ai mi d'amour, tas montagnos superbos, libelur me, tu blanca virio me. L'estiu de mes las autos arbol, les agnelus reginum folomen. Ariège mon pais, otero tanta imado, mai tanta durado. Ariège mon pais. Ai mi tabe, tas campagnos pulidos, un tut prospero e la vigneles blancs, tus rius d'argent e tas prados floridos, e tus planes de bosques coronats. Ariège mon pais, otero tanta imado, maire tanta durado. Te presero en tu jor, tu nome rejuís, Ariège mon pais. Per auselu, fas que suleio pluejo, le plus bel ni sera toujur le cieu. Son Ariège es, dai samem un Ariège, cap de pais nespurit cum le mieu. Ariège mon pais, otero tanta imado, maire tanta durado. De prese luen tu jur, tu nome rejuís, Ariège mon pais. O mon pais, tan dus ama memorio, tu nuna ima, de un verbo que me morió, chul mieu ciel blu, ai miro sulei do. Ariège mon pais, otero tanta imado, maire tanta durado. De presero en tu jor, tu nome rejuís, Ariège mon pais. Ariège mon pais, otero tanta imado, maire tanta durado. Te presde luen tu jur, tu nume rejuvis, Ariège mon pais.
Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans Page après Page et je reçois aujourd'hui Annie Rieu-Mias. Elle est enseignante à la retraite, sociologue, passionnée des relations occitano-catalanes, a travaillé aussi sur le réseau Oui Oui de l'OSS pendant la Deuxième Guerre mondiale, vu que son papa a été un résistant et un passeur des Pyrénées. Annie nous présente ce livre parce que ce livre, c'est un témoignage de la furie dure et pure qui a été 39-45. Annie, pour les personnages qui ont été emprisonnés à Bilbao, la vie y était dure. Mais vous dites aussi, par témoignage, que le plus dur pour ces prisonniers, c'était de faire le salut au fascisme. On peut comprendre ça quand on est patriote. Savez-vous s'il y a eu des rescapés, beaucoup de rescapés ou pas, ou est-ce qu'il y a eu aussi là des représailles du côté espagnol?
Alors, c'est compliqué du côté espagnol, puisque c'était le franquisme.
Et oui, en plus.
C'était le franquisme. C'est aussi pour ça que, c'est ce que raconte Joseph Calvé, il y a très peu de travaux qui ont été faits sur les passages, les passeurs, puisque ça a été l'omerta pendant des années, jusqu'aux années 2000. Donc, peu d'historiens se sont emparés de ces histoires, de l'aide des Espagnols ou des Catalans à la résistance française. Il en parle dans un de ses chapitres. Et les témoins vivants n'ont pas parlé non plus parce qu'ils avaient peur des représailles.
Et oui.
Je pense à Juan Soldevilla, qui est un tout petit monsieur que j'ai connu, qui est mort à 95 ans il n'y a pas si longtemps, et qui aimait raconter. Et il disait, et c'était un fils de famille pauvre aussi, qui faisait de la petite contrebande, de laine, de ceci, de cela, en Andorre, bon, qui s'est fait arrêter X et X fois, et puis qui a participé à certains passage dans l'autre sens, et ils prenaient le même itinéraire que mon père, finalement, mais ils se sont jamais croisés.
C'est fou.
Ils passaient par Auronner, donc ça devait être le bon sentier.
Oui.
Et de la même façon, il y avait Manuel Vidal, qu'on a connu après, qui était le correspondant de papa, qui montait jusqu'à la frontière et qui redescendait dans sa grange, etc.
Oui.
Et j'ai une pensée pour la fille de Manuel Vidal, Palmyre Rouex, qui vient de mourir à 91 ans aujourd'hui à Saint-Giron, hier à Saint-Giron.
Bon.
Donc nous avons lié d'amitié avec ses enfants. Nous avons fait une grande famille.
Mm.
Pour parler des gens qui passaient du côté espagnol, c'était compliqué. Franco avait négocié des pessettes de l'aide, et il laissait passer les Juifs, mais entre autres parce qu'il y avait des gens du STO qui passaient et des Juifs. Il les laissait passer, mais ils étaient enfermés à la prison de Sorte, dans un premier temps. C'est une petite prison, il y avait un espace femme, un espace homme. Après, il les amenait à Miranda del Ebro et à Carranza, dans des balnéaris, ils appelaient ça. C'était loin d'être des bains, hein.
Oui.
Balnéaris. Oui. Et là, avant, à la prison de Lérida. C'est là où s'opérait le tri, à la prison de Lérida.
Oui.
La prison de Lérida, tout ce qui s'en passait, on a pu recueillir des témoignages, c'était assez horrible. Hein. Ils ne mangeaient rien, de l'eau claire.
Oui, on les maintenait en vie.
On les maintenait en vie, et après, on les triait, et il y en a qui allaient à Carranza del Ebro, etc.
Oui.
Donc, il y avait le salut fasciste. Alors, ceux qui ont dû le faire, il y en a, je crois que c'est Jean-Marie qui le raconte.
Oui, il me semble.
Ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire, mais bon, c'est pas bon. Alors, quand tu es communiste et que tu dois faire le salut franquiste...
oui, je comprends.
C'est compliqué.
Et
les Juifs, souvent, ils disaient qu'ils étaient sud-américains ou canadiens pour pouvoir passer. Bon, c'est le jeu trouble de Franco, ça.
Oui, oui.
Le jeu trouble, oui.
Oui, c'est vrai, parce qu'à un moment, on dit, oui, il était avec l'Allemagne, mais après, il avait sa guerre civile à mener aussi. C'est vrai que c'était une période, en tout cas côté espagnol, une période double de guerre, quoi,
oui,
quelque part.
Mais les
guerre civile, guerre avec la France et l'Allemagne, enfin, c'était terrible.
Et du coup, les gens, ils se sont tus, ils n'ont pas parlé,
et
parce qu'il y avait des représailles. Parce que même dans les petits villages là, du Payars, où on savait qu'un tel, il trafiquait un peu ou qu'il était dans un réseau, mais sans le savoir tout à fait.
Il était dénoncé.
Oui. Oui. Il y en a qui ont été dénoncés, qui ont été obligés de fuir après dans les années 50 et qui ont été obligés de tout laisser.
Oui. Vous dites qu'il y a des évadés de chaque côté des Pyrénées. Arrivés sur le versant espagnol, ils étaient faits prisonniers. Est-ce que c'était pour la cause donc de Franco et de tout le chaos qu'il y avait à l'époque? Est-ce que c'était aussi pareil du côté français? Est-ce que les Espagnols, quand ils arrivaient en France, ils étaient aussi prisonniers?
Mais disons que pour le périmètre qui nous concerne, il y a eu beaucoup de passages sans arrêt d'un côté et de l'autre par le port de Salo, et notamment en 1938, quand il y a eu l'exil, les exilés républicains sont passés par le port de Salo. Il y a plus de 1000 personnes qui sont passées au mois de mai 1938. Ils fuyaient le franquisme, c'était les gens qui remontaient de l'Andalousie et qui allaient vers la Catalogne. Alors, il y a le plus gros exil, ça a été ce qu'on appelle la retirada, qui était en 1939 par les Pertus. Mais auparavant, comme les troupes franquistes faisaient des exactions dans les villages, un tel était dénoncé anarchiste, etc. Plaf, on le flinguait. Et il y a des fosses communes dans tout le Payars avec nos amis, là, ils travaillent là-dessus. On les liquidait, on les laissait sur place, ou on les enterrait sommairement. Les gens ont pris peur, il y en a beaucoup qui sont passés, par le port de Salo notamment, mais par d'autres ports frontaliers. Et là, ils ont été accueillis, entre guillemets, par les populations, mais comme... Il y a une histoire longue de relations, donc ils ont été bien accueillis par les populations, mais pas très bien accueillis parce qu'il y avait les gendarmes au pied du port qui les recensaient, qui les identifiaient. Ils étaient amenés à Seix, vaccinés, désinfectés, etc., mis dans un train à Saint-Girons et envoyés dans des camps.
Oui.
Pas de concentration, mais dits de rétention, je ne sais pas quoi. On a un exemple là, parce qu'on a travaillé aussi sur cet exil avec les mêmes personnes là. Il y en a qui ont été envoyés à Rodez, dans des centres d'hébergement à Rodez et à Clermont-Ferrand. Ils ne sont pas allés en prison, ils ont été dans des centres d'hébergement.
Des concentrations, quoi.
Après, ils sont sortis s'ils avaient de la famille. Mais après, comme les Belges et les autres réfugiés sont descendus, on a fait sortir les Espagnols des centres d'hébergement pour en mettre d'autres.
Oui. Donc c'est une époque terrible que votre papa a vécu là et il en a fait des témoignages avec les jeunes de son âge. Est-ce que votre père vous a-t-il dit s'il avait de la colère à l'égard des délateurs ou pas, peut-être qu'il a pu comprendre aussi?
Oui, il avait énormément de colère.
Je le crois.
C'est pour ça qu'il disait « je ne vais pas à ces commémorations ». Il ne citait pas les noms, mais nous, on le sait.
Oui.
Un tel. Il vendait le lait aux Allemands, etc. Oui. Ça s'est passé dans d'autres endroits. Non, il avait... passe ton chemin. Il n'avait pas la haine, mais passe ton chemin. T'es pas intéressant pour moi.
Quoi. D'accord. Je comprends.
C'est ce que je fais, moi aussi.
Vous avez raison. Les villageois, les bergers, savez-vous comment ils ont vécu la présence des Allemands dans les Pyrénées? Parce que dans le livre, vous dites, dans le village, les passeurs arrivaient, ils allaient à une certaine maison qui était à côté de la caserne des Allemands. Mmh. Ça devait être hyper difficile, hyper dangereux.
Ouais, je sais qu'à Coufflens, là où étaient basés les fameux douaniers, il y avait une épicerie à côté, qui était la maison relais, où papa avait sa chambre, il pouvait y dormir. Et puis, il passait par derrière, par les chemins, il me racontait. Mais les gens n'ont pas... Ceux-là, ils étaient au courant, mais ils n'ont rien dit. Mm-hmm. Ils n'ont rien dit. Et puis les bergers là-haut non plus, ils ne disaient rien. Tout à l'heure, je parlais de cette solidarité. Elle y était quand même. Et puis, quand on est dans un pays occupé, de toute façon...
Oui.
En principe, on est assez solidaire, quoi.
Oui. Et oui. C'est pour ça que quand on voit la pagaille qu'il y a aujourd'hui, mais on se dit, mais pourquoi il y a eu ces jeunes qui ont tant donné et qui parfois ont donné leur vie, ces hommes, ces femmes, ces filles, pour rien, finalement, puisqu'aujourd'hui, on recommence à la pagaille. Enfin, ça, c'était mon idée, c'était...
Oui, non, c'est sûr. Papa, il me disait, il nous disait, vous n'avez pas tout vu encore.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Et chaque fois, on le dit, avec mon mari, on dit...
On n'a pas tout vu.
On n'a pas tout vu.
C'est vrai. Beaucoup de morts avec la guerre civile en Espagne. Est-ce que c'était devenu plus difficile pour les passeurs, justement, cette guerre civile ? Parce que ça ne devait pas être commode de faire passer quelqu'un de l'autre côté des Pyrénées, en sachant que de l'autre côté, c'était encore plus pagaille que chez nous.
Mais disons que malheureusement, la guerre civile en Espagne, quand Franco a été adoubé par tout le monde, elle s'est arrêtée.
Oui. Oui, mais enfin, c'était...
Dans les esprits,
voilà.
Elle s'est arrêtée.
Oui, sur les papiers, elle s'est arrêtée.
Tous les républicains étaient partis.
Oui.
Enfin, du moins, tout ce qui était en danger de mort était parti. Il y a ceux qui ont fini en prison en Espagne.
Oui.
Ensuite, c'est devenu compliqué, quoi, pour...
Oui. Et là aussi, dans le livre, vous expliquez que tous ces réseaux, finalement, c'était un maillage qui convergeait tous vers l'Espagne. Donc, il en arrivait du côté de Marseille, il en arrivait du côté de Toulouse, il en arrivait du côté de l'autre côté aussi. C'était bien fait et bien calculé. Alors, le montage de ces maillages, ça a été fait par les passeurs eux-mêmes, finalement ?
Non, par les chefs de réseau.
Les chefs de réseau, d'accord.
Parce que pour le réseau, oui, par exemple, il y avait deux filières.
Oui.
Il y avait la filière ariégeoise, ouzranaise, et puis il y avait la filière pyrénées-orientale. Et chaque fois, ils doublaient. Comme ça, si une ne fonctionnait pas, on faisait fonctionner l'autre.
Ah oui.
Et celle de Perpignan est tombée assez vite parce qu'ils avaient passé... c'était pas des messages, c'était de l'argent, je sais pas quoi.
Ah oui.
Donc le Barceló, le passeur a été arrêté à Morellas, fusillé, pendu.
Enfin, oh là 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 là.
Il a été mis en prison
et torturé
et pendu. Donc la filière... La filière roussillonnaise, catalane, s'est arrêtée très vite. Et la couzoranaise a pu fonctionner. C'est dans le livre, Jean-Marie Maurer a été fait prisonnier à la prison de Lérida et il a été approché, comme il était gendarme à Marseille, anti-Pétain. Il a été approché par les services secrets américains parce qu'ils allaient dans les prisons pour repérer des personnes utiles qui allaient leur servir. Ils lui ont demandé s'il acceptait de retourner sur Marseille pour monter un réseau. Ils ont dû travailler de concert, je suppose.
Oui, oui.
Et c'est comme ça que Jean-Marie Maurer, dans l'ultime point frontalier, s'est entouré que de couzoranais, que de gens qu'il connaissait. De sexe à Couflens, à Lourdes et tout ça.
Et oui, parce qu'en fait, sur le terrain, il n'y avait que des gens comme votre papa, je le cite parce que c'est quand même... un peu pour lui qu'on dit beaucoup de choses aujourd'hui, il n'y avait que des gens comme votre papa et comme les autres bergers et paysans qui portaient les messages et qui faisaient passer les dossiers ultra secrets. Ils connaissaient le terrain, donc on devait leur dire, voilà, de là, tu vas là et il te faut passer. Tu te débrouilles.
Disons que, comme on peut le lire dans le livre, pour le réseau, il fallait faire un repérage des bases allemandes sur toute la côte méditerranéenne, et notamment sur Toulon. Il y avait des espions là qui œuvraient et qui photographiaient. Puis ces photos étaient miniaturisées ou ces plans. Tous les plans, là, on en a le descriptif. Tous les plans étaient miniaturisés et puis c'était amené à Saint-Girons. Jean-Marie ne faisait pas toujours le transport jusqu'à Saint-Girons. Mon père a dit qu'il y avait des femmes qui venaient des fois, une fois un curé aussi, il nous a dit. Un curé qui était venu porter un pli. Alors, c'était dans tel café à Saint-Girons. Et ils échangeaient sur l'arrière de la boutique. Il y avait un Portugais aussi qui était serveur au café.
Oui.
Et papa prenait son message, il le planquait dans le guidon du vélo et il remontait sur... sur Couflens, etc.
Et une fois aussi, il a été arrêté par les Allemands, votre papa, avec les messages dans les médicaments.
Dans le guidon du vélo.
Oui, mais aussi dans les médicaments. Enfin, peut-être un collègue de votre papa, mais c'était quand même gonflé de passer. Mais il fallait être patriote pour ça. On ne peut pas le faire sinon.
Il fallait être gonflé, il s'est fait arrêter, là. Il a dit qu'il avait eu la peur de sa vie parce qu'il a été arrêté par le... Dreyer, c'était le chef de Saint-Girons, qui œuvrait sur Saint-Girons, qui était la terreur, quoi. Mm-hmm. Et il a été arrêté, bloqué de tous côtés. Il faut avoir du sang-froid quand même.
Ah oui, pour... tout à fait.
Alors il dit, je descendais avec un vieux vélo qui n'avait même pas de pneus, où on mettait de la laine, puis des ficelles. Puis il descendait, lui, déguenillé, mais il avait toujours une ampoule, comme quoi il allait se faire piquer contre le paludisme par un médecin qui était dans le réseau aussi.
Et oui.
Quand je dis qu'il y avait ce maillage très étroit.
Tout à fait.
De gens qui... de taiseux.
Oui, quoi, de voilà, taiseux. C'est ça. C'est ça.
Et qui pouvaient être aussi bien des médecins, des paysans, des commerçants.
Oui. Le peuple est appauvri. En tout cas, le petit peuple, hein, on va dire. Et il en arrive à pratiquer l'interdit, c'est-à-dire la contrebande. Ça se pratiquait aussi entre passeurs, cette contrebande, ou ce n'était que les contrebandiers, finalement, qui étaient passeurs?
Oh, disons que certains contrebandiers, pas les gros, les oui. petits contrebandiers, ont pu devenir des passeurs parce que... ils connaissaient bien la montagne, ils savaient se planquer derrière un buisson,
oui.
Ils savaient éviter ou les patrouilles ou les gendarmes ou oui. pendant la guerre, beaucoup plus sérieusement, les troupes allemandes ou les troupes franquistes. Et puis ça leur faisait un complément d'argent aussi.
Tout à fait, il fallait vivre.
Et puis il y avait cette petite contrebande de proximité, comme je dis, que nous avons pratiqué aussi. Quand nous allions, montions au port de Salo, on allait acheter le pastis et en Espagne, on remontait avec des sacs à dos, mais c'était de la truc familiale, quoi.
Oui.
Et les Espagnols venaient de l'autre côté acheter le tabac aux commerçants ambulants du coin. C'était de la petite contrebande
oui.
de proximité,
oui.
je dirais.
Mais à la limite, presque, on vous aurait dit, tiens, tu peux me passer... ce document apporté à tel endroit, vous l'auriez fait aussi, finalement?
Moi, je l'aurais fait, oui.
Oui, mais bien sûr, je peux le comprendre.
J'ai des amis qui ont passé des livres, pendant le franquisme, des livres interdits
oui.
de France vers l'Espagne.
Oui.
J'ai appris ça.
Mm-hmm. Ah oui, mais je veux bien le croire. On en a parlé, la prison, c'était le calvaire hein, pour tous ceux qui étaient arrêtés. Comment ça s'est expliqué? Est-ce qu'ils étaient nombreux, ceux qui ont parlé? Ou, comme on vient de le dire, c'était des taiseux. Il fallait les amener à libérer la parole pour pouvoir avoir des témoignages.
Oui, je pense que... Bon, pour mon père, comme je vous l'ai expliqué, c'était plus
oui.
simple, puisque l'histoire d'Elpla avait fait tout un travail. Émilienne
oui.
Echen avait fait un travail remarquable dans tous ses livres. Elle n'a jamais été trop à l'honneur non plus. Pourtant, c'est une des premières avec ses bouquins, les Montagnards de la Liberté, etc., où elle a toute une liste. Elle avait mm-hmm. fait un travail qui n'a jamais été repris, qui n'a jamais été valorisé. Pour le Juan Soldevila, là, ce passeur, ça a été aussi grâce à Noémie, qui est historienne, donc qui a interrogé ce,
oui.
ce monsieur sur l'exil républicain
oui.
espagnol, etc. Et puis il lui a parlé de ces passages.
Oui.
Et c'est comme ça, à force, elle a d'enregistrement en enregistrement,
oui.
qu'elle a fait des heures et des heures d'enregistrement.
C'est fabuleux.
Manuel Vidal, fils de Manuel Vidal, correspondant de mon père, savait très peu de choses, les enfants Vidal savaient très peu de choses. Et quand on a fait cette expo, ils l'ont su, on n'avait pas trop de contacts. Toute la famille m'est tombée dans les bras parce que... Mais je ne savais pas tout ça de papa, je ne savais pas tout ça
oui.
qu'il avait fait.
Oui, oui, oui.
Et donc on a pu, grâce aux témoignages et aux archives, de voir qu'ils existaient. Parce que finalement, s'il n'y avait pas tout ça, il y aurait des doutes parce que... Les gens ne sont pas très sympas et quand même, vous savez, ils disent « Quoi, lui, il a fait ça, moi ?»
Oui, 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 c'est ça.
Et preuve à l'appui, on vous montrera ce qu'ils ont fait.
La période de 1943 était terrible pour justement ces réseaux, et notamment le réseau belge. Mmh. Et eux, ils ont pris gros. Ils ont dû arrêter d'ailleurs le réseau
oui.
pour pouvoir sauver des gens.
Oui, ils ont dû arrêter, oui.
Ça a été une année charnière, cette année 1943 ou pas? Ou est-ce que ça a pu continuer quand même, reprendre après?
Il a repris après, oui.
Ah, il a repris, voilà, c'est ça ma question.
Oui, oui.
D'accord.
Oui, là, il y a eu cette arrestation
oui.
de Epsé, mais il n'a pas été le seul, et parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'aviateurs ou de résistants qui ont été arrêtés, et ils ont été très décimés, ils étaient grillés, quoi, parce que c'est...
Oui. Pourquoi après la guerre, beaucoup de ces passeurs qui aidaient à la fuite n'ont pas eu un emploi décent? On en a parlé un petit peu avec votre papa au tout début de cet entretien. Est-ce qu'ils ont été oubliés?
Bon, je pense que oui, ils ont été, en quelque sorte, ils ont été oubliés. Ils sont revenus à l'état initial, quoi.
C'est quand même malheureux.
Cette période, je ne peux pas dire enchantée, parce que ce n'est pas le bon mot, mais
oui.
Cette période spéciale, particulière, une fois tout est rentré dans l'ordre, on oublie tout, on oublie trop vite, je crois.
Tout à fait.
Donc le travail de l'historien et du témoin est important, là.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez renforcé vos dires dans ce livre avec des documents, et quand on voit les documents de passage de cartes que vous avez mis, et qu'on sait qu'il y a des jeunes, des femmes, des hommes de 20 ans qui se sont battus pour notre liberté, qui ont été patriotes jusqu'au bout de leur vie, jusqu'au bout de leur souffle, valeureux pour prendre les risques qu'ils ont dû prendre, sauver nos valeurs à nous, parce que finalement c'est notre vie à nous qu'ils ont sauvée. Est-ce que c'est le drapeau qui les a portés? Alors que la vie leur ouvrait les bras, finalement, à 20 ans, on veut aspirer à une vie sympathique et toute simple.
Oui, mais ça dépend d'où on vient, quoi, aussi. Hein, parce que, disons que d'où venait papa, cet engagement, quand même, lui a permis ensuite d'avoir d'autres engagements, puisqu'il est rentré dans les FFI, et puis il est parti avec les éclaireurs skieurs en Autriche pour surveiller la frontière. Donc il était parti pour un engagement militaire, quoi, dans l'armée.
Oui.
Et comme il devait partir en Indochine, il s'est fait démobiliser, quoi. Il n'a pas voulu. Et il avait une enfant qui était ma sœur aînée. Maman était partie en Autriche le rejoindre. Donc elle avait 18 mois quand il était en Autriche.
Oui.
Et il a peut-être eu le mal du pays.
Il est revenu,
ce qui fait que ça a été peut-être un retour arrière, mais il était tellement amoureux de ses Pyrénées.
Avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, on peut comprendre qu'il aspirait un peu à sa vie de famille propre et que ses Pyrénées lui manquaient, mais que aussi c'était là qu'il voulait peut-être élever ses enfants.
Oui, je pense, puisque moi je suis née en 48, l'après-guerre.
Oui.
J'aurais
oui.
pu naître en Autriche, mais non, je suis née là. Oui, je pense qu'il a voulu nous élever dans ce coin-là qu'il aimait, un coin auquel on est très attaché.
Il avait compris la vie.
Je pense, oui.
Quand on lit votre livre, c'est ce qui ressort de ça. C'est fort comme témoignage. Donc, oui, il avait compris la vie.
Par contre, en termes d'emploi, comme je vous ai expliqué,
ah
ça
oui.
a été chaotique. Et c'est que dans les années 60,
il avait quand même déjà
4 enfants. Plus. Ouais.
Et oui.
Il y avait quand même des gens qui se sont occupés de lui. Il en voulait à certaines personnes.
Ah
il dit, avec tout ce que j'ai donné pour la France et pour le pays, il était un peu amer. Non, je pense, après, on a appris certaines autres choses, pas de son réseau, mais des événements qui se sont passés dans le secteur où il a été partie prenante.
Tout à fait.
On n'a pas tout su, quoi. Je dis, on regrette qu'il soit mort en 97. C'est loin, c'était il y a longtemps déjà. Et qu'il n'ait pas pu nous raconter... D'autres choses.
Oui. Merci Annie, merci de m'avoir confié cette lecture, une lecture émouvante, c'est vrai que c'est émouvant, que ces hommes dont vous parlez dans le livre, ces hommes, ces femmes, eh ben, ce sont des grands hommes et des grandes femmes. Beaucoup de personnes n'ont même pas tiré des leçons de cette vie, puisque l'histoire se répète bel et bien, on en est la preuve tous les jours. Et comme vous, je suis fille de combattants. Ces gens-là, ces jeunes, ont vécu l'horreur, puisqu'ils n'en parlaient jamais. Merci en tout cas de les faire revivre. Merci de leur faire ce témoignage. Merci à eux. Merci à vous, Noémie Rudor Garcia, José Calvé Balera, qu'il ne faut pas oublier, parce que aussi ce livre, ils l'ont coécrit avec vous. Je vous laisse le mot de la fin.
Je vous remercie, Gisèle, de m'avoir accueillie, de m'avoir permis de parler de ce livre. Car ce livre, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la récompense que les nations ne leur ont pas donnée.
On va finir avec un hymne occitan encore, l'immortello de Nadal.
L'immortello de Nadal. Et il faut dire que la langue gasconne et la langue catalane qu'ils utilisaient dans leur réseau n'est pas anodine.
C'est vrai.
Et ça, il faut le souligner pour ceux qui ont tendance à minorer l'importance de ces langues. Ces langues ont permis aussi de communiquer.
Merci Adichat, c'est Aléo.
Adichat, c'est plat.
Sei un país e io flor
e io flor e io flor
che la pera la dell'amor
la dell'amor la dell'amor au pero van caminar van caminar e caparim
Que ya yo luz,
que ya yo luz, que ya yo
luz. Que cal guardar los ways de sus,
los ways de sus, los ways de sus. Au peiro van caminar, van caminar y capar inmortero. Au peiro van caminar. Van caminar o país van cercar.
Tens que trancar, tu lo cegas,
tu lo cegas, tu lo cegas.
Tens a rapar, son que las más,
son que las más, son que las más. Caminar capar inmortelo, tau pero van caminar, van caminar, o país van cercar.
Eu beiran paz, llamei la fi,
llamei la fi, llamei la fi.
La libertad que lo cami,
que lo cami. Au pero van caminar, van caminar el caparín mortero. Au pero van caminar, un país van cerca.
Al preslo mai, uniau te mai,
uniau te
Van caminar, van caminar, un país van cercar.